L'apôtre Paul a écrit un bon nombre de lettres dans le Nouveau Testament que nous connaissons. Et Paul a un vocabulaire particulier. Nous employons beaucoup de ces expressions familièrement et peut-être en ayant perdu le sens de la profondeur de ces expressions. Alors le but de cet enseignement n'est pas de reprendre toutes les expressions de Paul, mais peut-être prendre celles qui sont parmi les plus connues et de se pencher sur ce qu'elles impliquent dans notre propre vie. Parmi ces expressions bien particulières, donc le thème de cet enseignement, c'est l'apôtre Paul qui lit l'Ancien Testament. Nous verrons, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Deuxième expression, nous sommes la bonne odeur de Christ ou le parfum de Christ, suivant les passages que nous étudierons. Et enfin, nous sommes en Christ. Nous, chrétiens, nous sommes en Christ. Nous verrons donc l'une après l'autre ces expressions et commencerons par la première. C'est une image bien connue que nous allons étudier en premier lieu. Et pour comprendre sa signification et son importance pour Paul, il faudra faire tout un cheminement sur l'histoire du temple. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Qui n'a pas entendu cette expression jetée quelquefois de manière légaliste pour reprendre quelqu'un suite à une addiction qu'il avait? Le temple de Dieu, c'est le sanctuaire dans lequel Dieu est adoré. Dans l'Ancien Testament, les prophètes Ézéchiel et Agée font allusion à la construction d'un nouveau temple dans le royaume de Dieu. Ézéchiel 37, 40 et Agée chapitre 2. Les différents courants du judaïsme croyaient aussi à la construction d'un nouveau temple avec le rétablissement du culte. Et Paul va utiliser une métaphore, c'est-à-dire une comparaison imagée, pour montrer que la communauté chrétienne est le temple eschatologique de Dieu, c'est-à-dire le temple de la fin des temps. Les croyants constituent en effet le lieu que Dieu habite et où il est adoré. Cette expression chargée de sens nous renvoie à l'ancien temple, un lieu magnifique et grandiose où Dieu se révélait, mais nous interroge aussi sur la portée que ça a dans notre propre vie. On va donc parler du temple dans la Bible dans un premier temps, puis nous verrons la signification de cette expression chez Paul. Enfin, nous relèverons l'importance de cette image pour Paul, qui a d'ailleurs plusieurs conséquences pratiques extrêmement importantes et concrètes dans la vie du chrétien. Le temple dans la Bible. Que signifie donc le temple dans la révélation que Dieu donne de son plan? Le temple symbolise la réalité de la présence de Dieu parmi son peuple, ce Dieu qui manifeste sa gloire. Il ne suffit pas de dire que c'est pour montrer sa puissance que Dieu agit dans l'histoire. S'il est présent au milieu de son peuple, c'est aussi pour manifester la gloire de sa face. Dieu qui précédait Israël lors de sa marche au désert demeure sur sa montagne sainte. Au temple, Israël adorait le Dieu qui y séjournait réellement. Dieu prend toujours l'initiative pour manifester sa présence. D'où la confession émerveillée de Jacob à Bethel, passage bien connu en Genèse 28. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Quel contraste entre Bethel et Babel, l'échelle par laquelle Dieu descend vers Jacob, l'exilé. La présence de Dieu fait de Bethel la maison de Dieu et la porte des cieux. Il y avait eu le tabernacle, la tente où Dieu rencontrait Moïse, à l'extérieur du camp, car le tabernacle était autant une barrière qu'un accès à Dieu. Et dans son discours, Étienne, en acte 7, reprend la prière de Salomon, alors qu'il est accusé de proférer des paroles contre le temple. Il met en valeur la véritable adoration qui se concentre sur Dieu plutôt que sur le temple. Accusé de blasphème contre le temple, il passe en revue les Écritures pour démontrer que la présence vivante de Dieu passe toujours avant le temple. Et bien avant que le temple n'existe et hors de la terre promise, Dieu appelle Abraham et Moïse. Au buisson ardent, le désert du Sinaï devient une terre sainte. Et c'est là que l'ange de la présence de Dieu se fait le porteur d'oracles vivants et d'un modèle céleste du tabernacle. Même lorsque le temple est construit selon la promesse de Dieu, il est confessé lors de la dédicace que Dieu n'habite pas le temple fait de main d'homme. En conclusion, Étienne cite un passage du livre d'Ésaïe dirigé contre toute adoration qui se concentrerait sur le temple plutôt que sur Dieu. Le Dieu des cieux ne peut pas contenir et ne saurait être amené au combat dans une boîte ni enfermé au sommet d'une montagne. Car Sion ne contient pas Dieu, c'est Dieu qui choisit Sion. Pourquoi Sion? Est-ce là la montagne que Dieu a choisie pour demeure? Sion n'est ni la plus haute des montagnes, ni le centre de l'univers. Dieu a choisi Sion comme il a élu Israël selon son bon plaisir et par grâce. En effet, il a choisi Sion parce qu'il a choisi Israël. Et c'est là qu'il rencontrera son peuple. Le tabernacle au désert fut appelé la tente d'assignation. Non pas parce qu'il était le lieu de rassemblement d'Israël ou celui des armées célestes de l'Éternel sur la terre, mais parce que c'était là que Dieu rencontrait ses saints. Et la joie que l'on trouve dans les psaumes vient justement de l'assurance que Dieu est présent parmi son peuple. Aimer les parvis du Seigneur n'est rien d'autre qu'aimer le Seigneur qui demeure parmi son peuple de par son propre choix à lui. Pourtant, la présence de Dieu est source d'effroi avant d'être source de joie. Comment le Dieu saint pourrait-il demeurer parmi les hommes sans les anéantir? C'est cette menace que le livre de l'Exode assigne dramatiquement pour toile de fond à la construction du tabernacle. Tandis que Moïse, sur la montagne, reçoit les plans du tabernacle, en bas, le peuple se livre au péché devant le veau d'or. Alors se pose cette urgente question, tabernacle doit-il être construit? Dieu y résidera-t-il? Dieu lui-même rend son verdict. C'est non. Il avancera à la tête de son peuple dans l'ange de sa présence et il chassera de la terre promise les ennemis de son peuple. Il rencontrera Moïse dans une tente dressée à l'extérieur du camp, mais il ne montera point au milieu du peuple de peur qu'il ne le consume au même instant. Dans l'Ancien Testament, c'est la présence du Seigneur qui donnait sa valeur au temple. Les hommes ne pouvaient pas voir Dieu puisqu'ils avaient eu le tabernacle. Et Moïse, angoissé, répondra « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, verset 15. Il cherche désespérément la face de l'Éternel et il reçoit de la gloire de Dieu une vision aussi riche qu'il peut la soutenir. Dieu montera au milieu du peuple. Non seulement il donnera un héritage à Israël, mais encore il en fera son propre héritage. Et le tabernacle sera construit, car grâce est le nom de Dieu. Je fais grâce à qui je fais grâce. Pour cette raison, le tabernacle servira de barrière, aussi bien que de chemin d'accès. Tout comme la main de Dieu recouvrit Moïse dans le creux du rocher, le voile du lieu très saint cachera la gloire de Dieu. Le sacerdoce servira d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Pourtant, un chemin, une porte de miséricorde est ouvert jusqu'à la présence de Dieu. L'accès au parvis de l'Éternel passe par la fumée des sacrifices et par le sang des animaux égorgés, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Lévitique 17. Le moyen d'approche que prescrivent le tabernacle et le temple est tout entier un chemin de sang. Le temple de Jérusalem était l'un des principaux symboles de la foi israélite. La Torah, c'est la loi révélée. Il y a une terre, une identité ethnique. Tout le culte israélite se consacrait à ce lieu d'adoration que Dieu avait choisi et dans lequel il se manifestait. C'était à la fois un lieu de pardon avec les sacrifices, mais aussi un lieu d'adoration. Le prophète Jérémie révèle que le peuple d'Israël sera exilé et le temple détruit, un signe du jugement prononcé sur un peuple rebelle et idolâtre. Il suffit de relire Jérémie 7 et Lamentations chapitre 2. Le prophète Ézéchiel, lui, voit le trône de Dieu partir, Ézéchiel 11. Et si on pouvait résumer le symbolisme de la prophétie d'Ézéchiel, on dirait que le seul temple indestructible, c'est la gloire même de Dieu présente parmi son peuple. Différents prophètes ont annoncé une nouvelle alliance de paix éternelle. Ésaïe 54, Ézéchiel 16, Jérémie 31. Ils ont annoncé aussi une réunification avec les païens, puisque toutes les nations participeront au festin de Dieu. Et dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la gloire de Dieu sera la lumière. Le temple est important dans les évangiles. Jésus est présenté dans le temple. L'enfant Jésus est lui-même la gloire de Dieu, bien qu'il soit destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et lorsque Marie cherchera son fils, c'est dans le temple qu'elle le trouvera. Avec Jésus, le symbole devient réalité. Jésus accomplit la parole de Dieu. Le parvis du temple est par exemple la scène d'une guérison, Matthieu 21. Et Jésus lance aussi une parole surprenante qui est l'annonce d'un nouveau temple, Jean 2, verset 19. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il est dit aussi que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, ce que le prophète Jérémie avait annoncé plusieurs siècles auparavant. Et donc, c'est dans le corps de Christ que la purification finale doit avoir lieu. Par sa mort et sa résurrection, Jésus introduit un nouveau sens dans l'image du temple. Et Paul va reprendre l'image du temple pour exhorter les croyants. Nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. C'est une exhortation. Quelle est la signification de cette image pour Paul? Cette affirmation pourrait annoncer que le peuple de la fin des temps serait habité par le Saint-Esprit. On retrouve cette expression dans les épîtres de Paul aux Corinthiens et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Elle a une triple portée. Premièrement, sauvegarder l'unité de l'Église. Donc je lis 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple est saint et c'est ce que vous êtes. C'est dans un contexte de tension au sein de l'église de Corinthe que Paul choisit intentionnellement l'expression « temple de Dieu ». Ce qu'il veut mettre en avant, c'est qu'il faut avant tout rechercher l'unité. L'église ne peut pas être divisée. Et le faux enseignement brise l'unité de l'église. Et Dieu détruira celui qui brise l'unité. 1 Corinthiens 3, verset 17. Alors quand on songe au nombre de divisions d'Église, ça devrait nous faire réfléchir. Paul va citer Lévitique 26, 12 et Ézéchiel 37, 27 pour appuyer son point de vue, ce qui confirme l'accomplissement de la promesse faite aux prophètes d'un nouveau temple de Dieu. Je lis donc Lévitique 26, 12 « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. » Et Ézéchiel 37, 27, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. » Donc ça, c'était la première portée de ce texte, sauvegarder l'unité de l'Église. Le deuxième point, c'est vivre dans la sainteté. Dans le contexte de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est une claire opposition à l'immoralité pratiquée par les Corinthiens. On ne peut pas disposer de son corps comme on veut, puisqu'il est le temple du Saint-Esprit. Le croyant fait partie d'une communauté, et l'Esprit de Dieu habite la communauté. Celle-ci doit s'éloigner de toute forme de mal, parce qu'elle est un peuple saint. Dieu habite au milieu d'elle. Elle ne peut pas se lier avec des incroyants en se corrompant dans l'idolâtrie ou dans des pratiques anormales, contraires à une vie sainte. Je lis maintenant 2 Corinthiens 6, les versets 16 et 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le croyant devient le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Ce qui a une implication directe dans la vie du croyant. Il appartient à Dieu. Il est saint. Tout comme le temple est consacré à Dieu, le croyant est aussi consacré à Dieu. Et ça nous renvoie au livre du Lévitique qui est le code de sainteté. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qu'est-ce que c'est que glorifier Dieu dans notre corps aujourd'hui, au XXIe siècle? Dans notre pays, il n'y a plus de prostituées sacrées comme à Corinthe. Mais il y a d'autres formes de prostitution moderne. Il ne faut pas se voiler la face, car le nombre de chrétiens qui consultent la pornographie sur Internet est tristement impressionnant. Le choix des films ou des revues qu'on regarde impacte sur nos vies bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Il y a aussi la consommation de différentes choses qui détruisent notre organisme et qui ont des conséquences irréversibles. Par exemple, un seul joint va détruire vos neurones. Et l'alcool, bu régulièrement, même sans se saouler, est destructeur. La cigarette, hormis le budget mensuel de 250 euros, ouvre la porte au cancer, aux problèmes cardiovasculaires. Il y a aussi une mode actuellement, c'est de manger excessivement, de se baffrer, comme on dit trivialement. Et puis on se filme et on passe ça sur Internet. Et il y en a qui arrivent même à vomir devant la caméra pour montrer jusqu'où ils sont capables d'aller. Donc c'est à celui qui s'empiffre le plus. On fait n'importe quoi avec son corps. Il y a toutes sortes d'addictions concernant le corps et on pourrait en citer toute une palanquée. Même notre langue, qui est un membre de notre corps, doit être tenue en bride. Et c'est Jacques qui nous parle bien clairement sur la langue. Un chrétien peut-il utiliser des mots vulgaires, intégrés dans le vocabulaire courant par exemple, et glorifier Dieu dans son corps? Autre point, est-ce que ma manière de m'habiller, de me comporter, glorifie Dieu? Est-ce que sous prétexte que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je vais au culte habillé n'importe comment? Alors ce n'est pas être psychorigide ou coincé de demander à Dieu si ce que l'on pratique avec notre corps le glorifie. Mais la loi gravée dans nos cœurs doit diriger nos actes. Elle nous permet de faire le choix d'être libre en Jésus. Imaginez que vous alliez visiter un lieu religieux, par exemple la cathédrale Notre-Dame, et que vous aviez un short ou un bermuda en tongs avec les fleurs entre les orteils. Est-ce qu'on vous laisserait entrer? Donc, tous ces petits exemples, on peut se dire ce que je pratique aujourd'hui, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que mon corps glorifie Dieu? Le troisième point, c'est anticiper une réalité céleste. Et je vous invite à l'écouter dans la deuxième partie.